Bâtisseur d'église, présenté par le père Luc Dangean, avec la complicité du père Lucien Lachiezeré. Bâtisseur d'église, la découverte de figures emblématiques de notre église à travers les siècles.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour.
Bonjour.
Nous allons aujourd'hui reprendre notre chemin d'histoire en évoquant la guerre de 14, ce contexte-là, mais aussi je pense que nous allons aborder un pape de l'époque.
Assez peu connu, assez trop peu connu.
Alors, ben, écoutez, il semble que cette guerre de 14 a quand même beaucoup marqué et la trajectoire de l'histoire telle qu'on pourrait peut-être la voir
se dessiner. Je ne vais quand même pas retracer l'histoire de la guerre de 14 parce que ce soit à la radio, à la télévision ou même dans beaucoup de communes, on a consacré au centenaire de cette guerre souvent des expositions remarquables, on a fait des films, donc je ne vais pas revenir là-dessus, sinon signaler quand même que ce fut quelque chose de terrible. C'est une véritable boucherie. Et il y avait eu une exacerbation des nationalismes, des intérêts de certaines grandes puissances, aussi bien par rapport à elles-mêmes qu'à leur empire colonial. Donc, la guerre qui commence en 1914, coïncide en gros avec le changement de pontificat à Rome. En effet, Pie X, dont le pontificat avait été difficile, il était entouré de gens très soupçonneux vis-à-vis de tout ce qui était un peu nouveau, et lui-même, qui était plus un pasteur qu'un théologien, en subissait l'influence. Il y avait un climat de suspicion qui s'était développé, mais dont nous n'imaginons pas à quel point il pouvait être contraignant. Donc Pie X meurt le 20 août 1914. La situation n'est pas simple. Le pape a été privé de ses états depuis 1870. Il vit dans son palais du Vatican, mais sans reconnaissance officielle par les États, puisque lui-même ne veut pas reconnaître le fait d'être privé de l'État pontifical. Deuxièmement, les nations occidentales ont souvent pris beaucoup de distance. Ne parlons pas de l'Angleterre, qui n'a qu'un représentant, mais pas d'ambassadeur au Vatican. L'Italie non plus, puisque c'est elle qui, en faisant son unité, a privé le pape de ses états. Quant à la France, depuis le tout début du XXe siècle, elle a rompu les relations diplomatiques avec le Vatican. Donc il y a une sorte de situation en suspens, mais avec une certaine hostilité. Qui va être le successeur de Pie X? Eh bien, celui qui est élu, c'est l'ancien secrétaire personnel du cardinal Rampolla. Cardinal Rampolla a été sous Léon XIII un personnage tout à fait remarquable, très au fait de la situation des pays d'Europe et même des nouveautés auxquelles il n'était pas fermé. Alors son secrétaire particulier, qui est devenu cardinal, c'est le cardinal Della Chiesa, qui va prendre le nom de Benoît 15. Si je veux insister sur cet homme, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il tombe au moment de la guerre de 14, et son rôle sera difficile, mal compris, alors qu'il est peut-être précurseur. Par ailleurs, dans le climat justement extrêmement soupçonneux qui règne à Rome à ce moment-là, il apporte une respiration. Il apporte une respiration et 2 ou 3 jours après son élection, il va déclarer que c'est terminé l'ère des suspicions, il ne veut plus que ça dure. Donc, dans ses tout premiers documents, il travaille à faire une certaine paix dans l'Église, et on peut dire que c'est un homme qui est désireux d'éclairer un peu le climat.
Alors je fais une petite parenthèse. Est-ce que le fait que Benoît XVI, donc, qui a choisi ce nom, qui donc suit ce pape-là, l'a fait consciemment avec une intention par rapport à lui ou pas?
Alors, à mon avis, je ne lui ai pas demandé personnellement.
Ah, vous ne le connaissez pas, d'accord.
Mais il l'a fait par rapport à 2 papes, je pense. Peut-être même d'autres. Mais moi, je pense à 2 papes. Benoît XIV, au XVIIIe siècle, est le seul pape de ce siècle, XVIII, qui et donner l'impression d'un homme d'envergure. Il était à la fois très cultivé, connaissait plusieurs langues, il était relativement ouvert, il était même parfois en dialogue avec des gens comme Voltaire, comme des gens des Lumières. Bon, Benoît XV et Benoît XIV et Benoît XV, ben c'est celui dont nous parlons maintenant, je pense aussi que Benoît XVI a voulu s'en réclamer. Mais c'est moins évident parce que la situation n'est plus la même. Donc Benoît XV a confié 2 jours après son élection à un cardinal « L'ère des délations est maintenant finie ». Et quelqu'un qui justement représentait un courant ouvert et qui fréquentait le Vatican, dit « Nous voyons déjà quelques bons effets de la sagesse du nouveau pape, qui ne veut cependant pas avoir l'air d'iconoclaste par rapport au pontificat précédent. On respire mieux. Les savants voient déjà que leur titre de savant ne sera plus une mauvaise note. L'une des premières et des plus fréquentes paroles de Benoît XV est le respect des évêques et de leur juridiction. La presse noire, qui noircissait tout, est tombée très bas. Les journaux modérés ont repris leur ancienne place. On ne doit plus parler du tout de catholique intégral ou papal, il suffit bien d'être catholique. Et de même, en 1915, un grand cardinal de cette époque, qui était belge, le cardinal Mercier, dont nous aurons certainement l'occasion de reparler, disait: c'est l'arrêt de mort de cet intégrisme brouillon. De même, Marc Sangnier, qui avait eu une attitude assez admirable d'acceptation des mesures prises contre lui, fut reçu en 1916 par Benoît XV, lequel lui déclare que son attitude a été parfaite. Et en évoquant la condamnation du Sillon, il lui a dit: « Je ne crois pas que ce qui a été condamné était dans votre pensée.
Peut-être nous redire un peu ce qu'était le Sillon. Peut-être.
Alors le Sillon est un mouvement français, mais qui avait eu aussi un impact à l'extérieur, de jeunes catholiques, souvent des intellectuels, qui voulaient vraiment unir l'esprit démocratique et la foi catholique. Alors on leur a reproché de vouloir faire de la démocratie la nouvelle religion, de vouloir se rebeller contre la hiérarchie, etc. Et donc en 1910, Pidis et son entourage ont demandé à Marc Sangnier, ils n'ont pas condamné directement, mais enfin c'était quand même l'équivalent, ils lui ont demandé de changer son mouvement pour qu'il se mette à la disposition des évêques dans chaque diocèse, alors que c'était un mouvement national. Donc voilà, on se trouve là, Benoît XV donc lui dit, je ne crois pas que ce qui a été condamné était dans votre pensée. On a condamné seulement des mots, des phrases. Oui, c'est une meilleure respiration. Mais c'est difficile de respirer au moment où c'est la guerre. Donc la guerre de 1914, il y a eu plusieurs phases. C'est difficile de se situer parce que les nationalismes sont exacerbés, comme je le disais. Les Alliés sont donc en guerre contre les empires du centre de l'Europe. Alors, la France, la Russie, la Serbie, l'Angleterre, la Belgique sont... La Belgique qui est envahie sont dressées contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. La guerre s'étend même au-delà de l'Europe. C'est pour ça qu'on parle de guerre mondiale. Parce que l'Angleterre et la